Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
C'est la suite du petit déjeuner, l'actu à 9h18. On va parler de la libération de parole. Hashtag MeToo, inceste sur les réseaux. L'inceste qui ne serait plus un tabou politique. Enfin, en tout cas, c'est une des questions qu'on va poser à notre invitée Isabelle Aubry. Bonjour Isabelle Aubry.
Bonjour.
Bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio.
Vous êtes présidente de l'association Face à l'inceste et vous avez signé un témoignage, un récit bouleversant qui s'appelle « La première fois, j'avais 6 ans chez XO Document ».
Le témoignage en fait de votre enfance qui a été volée par votre père. J'aimerais commencer par la fin finalement, Isabelle Aubry. Est-ce qu'on en guérit un jour de ce traumatisme-là ?
Guérir n'est pas vraiment le mot, je dirais qu'on peut vivre avec, et on peut, enfin en ce qui me concerne en tout cas, vivre apaisé, équilibré. Après, je dois le préciser, un long travail sur moi-même, et grâce à l'aide de professionnels.
On va parler de votre histoire, hein, victime d'actes incestueux de la part de votre père, de l'âge de 6 ans à 14 ans, hein, c'est ça. D'autres histoires encore plus macabres, des partouzes, des boîtes échangistes. Le fait de reprendre la plume comme ça 12 ans après, parce qu'il faut quand même rappeler, Benjamin, que ce livre a été publié une première fois, hein, c'est ça, en 2008. Là, il est ressorti depuis le 22 janvier dernier dans une version mise à jour. Reprendre la plume 12 ans après, est-ce que c'est suite notamment à toute cette libération de parole sur les réseaux, notamment après les révélations et le livre de Camille Kouchner, ou pas ?
Alors, c'est concomitant, mais on y travaillait déjà depuis quelques mois parce que l'association que j'ai créée il y a 20 ans a changé de nom. Elle est devenue Face à l'inceste. Nous avons aussi sorti le nouveau chiffre de l'inceste le 20 novembre dernier pour mesurer un petit peu l'impact de la vague MeToo. Et ce sondage a révélé que 10% des Français se déclarent victimes d'inceste.
C'est énorme.
Donc nous avons aussi mis à jour nos 30 propositions au gouvernement et nous avons pensé que c'était le moment en fait de faire un bilan du combat de 20 ans en fait de notre association et aussi de livrer au grand public ces 30 propositions au gouvernement pour lesquelles nous nous battons depuis 20 ans en fait.
On va en reparler tout à l'heure ces propositions là.
Bien sûr.
Mais restons sur votre histoire aussi. Que répondez-vous quand même à ceux qui, il y en a quand même qui disent que voilà, il y a tout un tribunal médiatique sur les réseaux, un lynchage médiatique sur les réseaux. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là, à ces polémiques-là ?
Bah, écoutez, pour moi, quand j'ai créé l'association il y a 20 ans, je cherchais de l'aide. J'ai tapé « inceste » sur Internet, parce que c'est le mot qui me venait à l'esprit. Et il ne sortait comme occurrence que des sites pornographiques. Et vous voyez, 20 ans après, je me suis dit, voilà, l'outil qui va être le plus important pour que nous puissions non seulement parler, mais surtout être écoutés, parce que en fin de compte, on n'assiste pas vraiment à une libération de la parole, on assiste à une nouvelle écoute de cette parole qui peut-être peut inciter de nouvelles personnes à s'exprimer, mais grâce à Internet, aux réseaux sociaux et surtout, je dirais, aux vagues de révélations qui ont été relayées par les médias et notamment la première vague MeToo. Cette première vague, elle n'a pas été identifiée comme étant une vague inceste. Pourtant, il y avait beaucoup de victimes d'inceste qui s'exprimaient à l'époque, mais c'était pas le moment. Et là, maintenant, on arrive à nommer le mot inceste et à parler vraiment du sujet. Donc c'est bien normal que les victimes se sentent légitimes de s'exprimer. Rares, je pense très rares, sont celles qui mentiraient par rapport à ce qu'elles ont vécu. Je pense qu'on n'en est pas là.
Qu'est-ce qui fait que, dans votre cas, vous l'expliquez dans ce livre-là, qu'est-ce qui fait que, on reste silencieux, qu'on garde le silence, qu'on reste dans le déni aussi pendant de longues années, qu'on vit avec ça, malgré ça, finalement, pendant de longues années ?
Oh ben écoutez, il y a beaucoup de facteurs. Ça, quand on est petit, déjà, il faut arriver à comprendre ce qui vous arrive, hein, à comprendre que c'est pas normal. Moi, je l'ai compris. J'avais 13 ans, donc, et c'est à ce moment-là que j'ai cherché à me mettre en sécurité, à échapper à mon père. Mais avant, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais même pas que c'était illégal. Donc. Après, l'enfant va. Moi, j'ai envoyé énormément de signaux d'alerte, que ce soit à ma famille ou à la société. J'ai fait des fugues, j'ai commis des actes de délinquance, je me suis mise à fumer, j'avais 7 ou 8 ans, j'ai arrêté de manger. Mais
des vols aussi.
Voilà, c'est-à-dire que vraiment, il fallait avoir les yeux fermés pour ne pas voir que j'allais mal. Mais tous ces signaux, aucun de ces signaux n'a été vu ni entendu. C'est peut-être à partir du collège, où comme effectivement mon père me prostituait la nuit, eh bien à l'école, je dormais sur les tables. Et là,
les enseignants ont pu voir.
Les enseignants se sont inquiétés et ils m'ont pas posé la question à moi et c'est dommage.
Ils l'ont posé
mon
à votre père.
Voilà. Eh oui. Et lui a dit, eh ben, écoutez, elle est malade, elle a besoin de se reposer, laissez-la dormir. La seule qui finalement m'a posé la question à moi, et ça c'est un message fort en fait, c'est ma voisine. Ouais. Ma voisine,
ça a été votre sauveuse.
Et c'est elle qui a osé aussi en parler, Isabelle Aubry, à votre maman, parce que votre mère ne voyait pas ou ne voulait peut-être pas voir, je n'en sais rien. Mais c'est elle qui a aussi osé aller en parler à votre mère.
Bah, en fait, je ne vivais pas avec ma mère, donc quand ma voisine m'a questionnée, elle a vraiment, vraiment beaucoup insisté. Hein. Elle m'a pas lâchée parce que je ne voulais pas dire parce que j'avais peur.
Ouais, peur.
J'avais très peur de mon père. Pour moi, parler, il faut comprendre ça. Pour moi, parler, c'était mettre ma vie en danger.
C'était la mort.
Il faut comprendre. Voilà, il faut comprendre qu'un enfant, quand il parle, vraiment, il y met toute sa vie et il parle parce qu'il veut que ça s'arrête. C'était mon cas. Mais j'ai quand même demandé à cette voisine, après lui avoir tout révélé, je lui ai demandé de garder le silence jusqu'à ce que je sois en sécurité parce que je craignais pour ma vie.
Et elle l'a gardé un petit peu, ce silence, avant d'en parler.
Oui, elle l'a gardé jusqu'au moment où, effectivement, j'allais retourner vivre chez ma mère. Et donc là, elle a appelé ma mère et elle lui a tout révélé. Donc là, on m'a questionnée. Là, ma mère m'a demandé si c'était vrai. Et j'ai dit tout de suite oui. Et immédiatement, nous sommes allés à la police. Et j'ai dit aux policiers, je parle, mais vous me jurez que vous arrêtez mon père parce que sinon, il va me tuer.
Et vous racontez...
Donc,
Pardon, allez-y.
Ils l'ont arrêté dès le lendemain et à l'époque les moyens étaient peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Quelque part j'ai eu un peu de chance parce que une perquisition a été faite immédiatement, donc des preuves ont été trouvées immédiatement et mon père a avoué les faits tout de suite.
Vous racontez aussi ce contexte familial qui est très particulier. Vous estimez d'une certaine façon, dites-moi si je me trompe, mais que il y a un terreau favorable, contexte familial qui peut être favorable finalement à ce type de drame.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire notamment sur le fait que vous êtes comme conditionné par votre père et par votre mère pour accepter finalement cet état de fait qui ne peut pas, qui ne doit pas être accepté, notamment sur le fait que vous avez une maman qui est assez distante finalement vis-à-vis de vous, un père qui est plutôt manipulateur, qui joue à la fois le chaud et le froid vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il y a ce contexte-là qui fait qu'on a l'impression que vous êtes comme préparé à accepter ce qui va se passer.
Préparé peut-être pas, mais vous écrivez « Je suis un objet encombrant pour ma mère et un objet désirable pour mon père ». Les mots sont forts. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'on a pu constater après, en interrogeant d'autres victimes, que c'est plus compliqué pour les enfants non désirés. Moi, je n'étais pas désirée, j'étais ce qu'on appelle un accident. Dans un contexte aussi de violence familiale, et ça, c'est de violence conjugale, et ça, c'est un des facteurs de passage à l'acte incestueux les plus importants, un facteur de risque. Et le deuxième, le plus important, c'est quand le père a lui-même été victime. Bon, mon père n'a pas été victime, hein, c'est pas systématique non plus. Mais ce serait des choses à prendre en compte pour faire de la prévention. Effectivement, moi, je vivais dans ce qu'on peut appeler un climat incestueux, c'est-à-dire un climat où il n'y a pas de respect de l'intimité de l'enfant et où même l'intimité des adultes est fusionnée avec celle des enfants, où, par exemple, les rôles sont inversés. J'étais la confidente de mon père. J'assistais aux ébats sexuels de mes parents. C'était vraiment, oui, je me sentais comme une chose posée là, une quantité négligeable en fin de compte. Et j'ai entendu ce contexte résumé par une enfant lors d'un procès d'assises auquel j'ai assisté récemment, où elle disait « Dans notre famille, les hommes étaient tout-puissants, les femmes à leur service, et les enfants n'étaient rien. » Et vraiment, j'avais le sentiment de n'être rien qu'un objet sexuel, en fin de compte.
Votre père, finalement, a été condamné en correctionnel, par contre, et pas aux assises. Et ça, c'est un point sur lequel vous revenez aussi largement. Et c'est l'une de vos demandes d'arrêter, justement, à chaque fois de basculer en correctionnel, en délit, c'est-à-dire, finalement, au lieu d'en crime, quoi.
Oui, c'est tout l'objet de mon combat depuis 20 ans, parce que quand mon avocate Gisèle Halimi, qui connaissait bien la loi, c'est le moins qu'on puisse dire, m'a expliqué tout simplement, Isabelle, j'avais 15 ans, elle m'a dit, tu sais, ton père ne sera pas condamné pour inceste. Donc déjà, ça m'est tombé dessus, je dis, mais pourquoi ? Elle m'a dit, ça n'existe pas dans la loi. Elle dit, il sera condamné ou pour viol ou pour atteinte sexuelle. Alors, pour qu'il y ait un viol, il faut qu'il y ait un acte de pénétration, mais il faut aussi que la victime soit non consentante. Or, moi, quand le juge d'instruction m'a questionné et m'a demandé si j'étais consentante ou non, je vais vous dire, j'ai même pas compris la question. Alors, elle a reformulé, elle m'a dit, est-ce que tu as dit non ? Ouais, vous voyez, la violence de la question, je dis, ben non, j'ai pas dit non, c'était mon père.
Bien sûr.
C'est d'une évidence. Et donc, mon avocate m'a dit, ben écoute, si les jurés disent que tu étais consentante, ton père peut ressortir libre.
Ouais.
Donc il était préférable finalement de faire le pari entre guillemets du délit et de la correctionnelle plutôt que de passer devant un juré avec ce risque-là de ne pas avoir de condamnation du tout au final, quoi, c'est ça?
Oui, parce que pour viol il était passible de 20 ans, en correctionnelle il était passible de 10, mais il a été condamné à 6, il en a fait 4, mais le pire dans tout ça c'est... qu'il a été quand même jugé pour atteinte sexuelle, ça veut dire, sans violence, menace, contrainte ou surprise, ça veut dire que j'étais d'accord.
C'est dingue. Bah justement, alors, de toute façon, pardon, Isabelle
voilà
Aubry,
tout l'enjeu.
On va revenir sur, d'ailleurs, notamment toutes les propositions qu'il y a dans votre ouvrage, et notamment sur l'imprescriptibilité et puis la question du consentement dans quelques instants. Vous restez avec nous, il est 9h31.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
C'est la suite du petit-déj de l'actu avec notre invitée Isabelle Aubry qui est avec nous, présidente de l'association Face à l'inceste et auteur de La première fois, j'avais 6 ans, c'est chez IXO Documents. Isabelle Aubry, on a évoqué votre histoire il y a quelques instants. Dans votre ouvrage, vous formulez une trentaine de propositions concrètes pour protéger les enfants et lutter contre l'inceste. On parlait de consentement. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, souhaite que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans soit considéré comme un viol de façon automatique et donc sans interroger le consentement. Et puis il souhaite aussi que le seuil de non-consentement soit fixé à 18 ans en cas d'inceste. Ça, c'est fait partie des formulations que vous revendiquiez au niveau de votre association notamment ?
Absolument. Nous demandons depuis 20 ans effectivement que l'inceste soit réintégré dans le code pénal, c'est-à-dire que ce mot soit posé dans l'interdit de la loi et qu'il soit même une infraction spécifique. Et surtout qu'on arrête, comme moi on me l'a fait, c'est-à-dire de questionner l'enfant sur son consentement, puisqu'il est de facto sous l'emprise de ses parents, au moins jusqu'à sa majorité, donc c'est impensable de lui demander s'il était consentant. Donc si nous obtenons cette loi, ce sera une grande avancée.
On va vous faire réagir à 0826 300 300. Vous nous appelez, on file au standard avec, je crois que c'est Diane qui nous appelle. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio.
Oui. Alors, j'ai un peu de mal à parler. Ce que je voulais dire, c'est que la loi qui est en train de se passer là, elle ne devrait pas être de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je devrais être à vie.
À vie ?
Elle devrait être à vie, tant qu'ils sont vivants. Après la mort, il ne devrait plus y avoir de procès. C'est-à-dire qu'un violeur doit être condamné. On peut porter plainte contre un violeur à vie. C'est-à-dire tant qu'il est vivant, tant qu'il peut se défendre. Quand il ne peut plus se défendre, on n'a qu'une parole d'un côté. Et donc là, moi je dis, il n'y a plus de procès. C'est un lynchage. On ne sait pas si c'est la vérité ou pas la vérité. Je peux vous dire ça simplement parce que ça fait 5 ans que je viens d'en comprendre qu'on est d'une famille nombreuse. Je suis d'une famille nombreuse. Et il y a 5 ans, mon père est décédé en 2004, et une de mes sœurs vient de nous dire qu'il y a eu un problème. J'avais eu un problème avec mon père. Mmh. Mon père était exemplaire avec toutes ses filles, sauf avec elle. Mais elle l'a dit une fois que mon père était décédé. Mmh. Et ça, moi personnellement, je ne peux pas accepter, et je ne le comprends pas. Mmh. Tout simplement parce que quand ils sont vivants, parce qu'elle l'a côtoyé de son vivant. Elle l'a côtoyé, elle est venue à les fêtes, elle est venue à tout ça. Quand il est mort, elle l'a sali. On le salit, et elle nous a sali à nous aussi. Donc c'est pour ça que j'y crois aux incestes, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où une personne est décédée, on ne doit plus le salir. On doit avoir une vie pour porter plainte. Parce que ce n'est pas 10 ans ou 20 ans que des fois on peut le faire. C'est une vie. Mais c'est ça qu'il faut que ce soit la loi, il faut qu'elle soit à vie.
Mais pourquoi vous dites, deux personnes. Diane, pourquoi vous dites salir ?
Parce que quand on est mort, j'ai que la parole de ma sœur. Oui. Je n'ai pas, moi, mon père ne m'a jamais rien fait, ni à mes autres sœurs. Et c'est elle qui vient nous dire ça. Maintenant, je dis, pourquoi elle ne l'a pas dit quand mon père était en vie ? Pourquoi elle a attendu qu'il soit mort ? Je sais, on va me dire oui, mais elle n'a pas eu le courage. Mais moi, quand on dit, c'est pour ça que je dis, c'est pas une restriction. C'est une vie qu'on a le temps de le dire.
Diane,
c'est pas quand on est mort et qu'il n'y a personne pour venir contredire ce qu'elle dit.
On a compris, on comprend votre émotion, bien sûr. Diane, merci d'avoir partagé votre témoignage avec nous et avec Isabelle Aubry. Alors, il y a deux choses dans le témoignage de Diane. Il y a la question de la prescription, on va y revenir, bien sûr. Puis, on sent la difficulté aussi à comprendre ou à accompagner quand on est frère, quand on est sœur.
Oui, c'est justement... toute la particularité de l'inceste. L'inceste n'implique pas que l'agresseur est sa victime. Mmh. Non, on le présente, c'est pour ça qu'on veut que ce soit un crime spécifique dans la loi. Mmh. C'est d'abord un crime de lien. C'est-à-dire qu'un enfant victime, la première chose qu'il perd, c'est sa famille. Et dès qu'on va révéler l'inceste, tout le monde va être impacté dans la famille. Donc, il faut qu'on... Et on le voit bien aussi dans l'affaire Duhamel.
Oui,
la sœur est, entre guillemets, une victime collatérale. Nous avons des membres dans notre association qui n'ont pas vécu l'inceste, mais dont les parents, par exemple, ont vécu l'inceste, mais qui ont, eux, souffert aussi de cet inceste à cause des conséquences et des répercussions et d'avoir vu leurs parents souffrir. L'inceste, ça affecte toute la famille. Et quand les... Ça, c'est la première chose par rapport au témoignage de Diane.
D'où la deuxième chose, c'est la prescription. D'où la difficulté de parler, forcément. D'où la difficulté de parler aussi, bien sûr.
Ouais. Ben oui, parce qu'on sait que finalement, parler, c'est un petit peu prendre le risque de perdre sa famille. Et moi, je dis toujours, il n'y a rien de pire pour un enfant que de perdre sa famille. Je dis même que parfois, j'aurais préféré être orpheline. Au moins, j'aurais pu me faire des illusions. Et le pire, c'est que j'aimais mon père, moi. Et vous voyez, malgré tout ce qu'il m'a fait, ce que j'aimais pas, c'est ce qu'il me faisait.
Ouais, vous l'écrivez dans votre livre, Isabelle Aubry, vous l'écrivez, vous dites « C'est mon père que la justice a condamné, mais aux yeux de ma propre famille, c'est moi la coupable ». Vous aussi, vous avez dû affronter ça aussi pendant un petit bout de temps.
Eh bien oui, parce que celle ou celui qui parle et qui porte plainte, eh bien, est celui par qui le scandale arrive. Et le scandale, eh bien, il est d'abord porté sur le nom de famille. Ça veut dire que, de facto, tout le monde est impliqué. Vous voyez ? Tout le monde est dans la lumière, puisque tout le monde porte le même nom.
Mais depuis, vous avez changé justement ce nom-là.
Oui, alors j'ai changé parce que la loi me donne le droit de le faire, parce que j'ai un jugement.
Pour revenir à vos propositions concrètes pour protéger les enfants et lutter contre l'inceste, l'imprescriptibilité des crimes et des délits sexuels sur mineurs, pour vous, c'est essentiel ?
Oui, parce que on voit beaucoup de débats là-dessus, mais moi je le considère comme une protection quelque part des enfants. À partir du moment où on peut poursuivre, comme le disait Diane, quelqu'un toute sa vie, ça peut permettre de diligenter une enquête et d'arrêter un prédateur en série. Certaines affaires, malheureusement, quand les victimes sont en capacité d'aller porter plainte, il est trop tard. On peut plus faire d'enquête, on peut plus poursuivre. Et que fait-on pour les générations à venir ? Parce que souvent, on s'aperçoit que les victimes, elles parlent pas pour elles parlent pour les générations à venir de la famille.
En général, le fait de parler ou d'aller porter plainte, ça arrive des années après, très longtemps après. Qu'est-ce que vous voyez justement au sein de votre association ?
C'est en moyenne, la révélation en moyenne se fait 16 ans après les faits.
16 ans, ouais.
Oui, en moyenne. Donc, ça veut dire que ça peut être 25, 30 ans. Pourquoi ? Parce que... on se protège avec ce que nous appelons le déni. C'est une sorte de carapace intérieure qui nous permet de continuer à vivre malgré le traumatisme et de se reconstruire, de construire une vie affective, professionnelle, sociale. Et une fois qu'on est plus solide, eh bien, on arrive à être en capacité d'affronter cette réalité. Et peut-être de parler, justement, de parler ou aux membres de la famille, parce que, comme on le voit dans l'affaire Kouchner, c'est-à-dire les enfants, même ils sont devenus adultes, mais ils commencent à s'inquiéter pour la génération qui arrive. Donc, ils se disent, il faut qu'on en parle à notre frère, il faut qu'on révèle les faits. Voilà, c'est à ce moment-là, et souvent à des moments aussi où il y a un moment important dans la vie, par exemple quand votre enfant atteint l'âge que vous aviez quand vous étiez victime, lors d'un deuil, d'un mariage, et bien tout d'un coup, on sort du déni et on est en capacité de parler, mais c'est un moment très douloureux qui peut même conduire à des dépressions.
Ouais.
Mais nous, on considère que c'est le premier pas vers le rétablissement.
Oui, puis il faut aussi oser déposer plainte. Vous dites que voilà, il faudrait renforcer la formation des policiers, des gendarmes. Ça fait partie des requêtes de votre association aussi face à l'inceste.
Oui, parce que quand on a peu de formation ou pas de formation, vous voyez, les médecins ne sont pas formés pour dépister, les psys ne sont pas formés non plus, les enquêteurs, les magistrats, eh bien, qu'est-ce que font les gens ? Ils n'ont pas d'autre choix que de fonctionner avec leurs acquis culturels, avec leurs préjugés. Donc, ça va pas permettre d'avoir un traitement identique pour toutes les victimes, voire juste même, selon par qui vous allez être, par quel policier vous allez être accueilli, par quel juge va juger votre affaire, comment va être menée l'enquête, quel expert va vous expertiser. Moi, j'ai pu voir la différence puisque j'ai eu deux expertises psychiatriques et j'ai été expertisée par un mauvais expert et un bon expert, un expert qui connaissait le sujet. Et je peux vous dire que le premier, il n'a pas réussi à me faire sortir un mot, alors que le deuxième a réussi à me faire parler. Donc, c'est extrêmement important pour une enquête de ce, qui met aussi la vie en jeu, autant de la victime que de l'auteur.
En parlant de formation, il faudrait aussi développer la formation dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées, oser en parler, trouver les mots.
Oui, oui, oui. Et puis il faut former et puis il faut apprendre à travailler en réseau. Il faut obliger les médecins à signaler parce que aujourd'hui, les médecins, s'ils dépistent un enfant susceptible d'être victime, eh ben, ils n'ont pas d'obligation de signalement. Alors, le résultat, c'est qu'à peine 5% des médecins font des signalements.
Sur la question de la prescription, juste d'un mot, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, vous voulez justement retirer cette prescription, qu'on puisse justement porter plainte, quel que soit le moment après ce drame. Si vous répondez à ceux qui vous disent, bah voilà, 30, 40 ans après les faits, comment on fait pour juger ? Quelles preuves ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah, en fait, ceux qui ne veulent pas que ça avance, parce qu'il y a de nombreux pays, des dizaines de pays qui vivent sans prescription, et ça se passe très bien. Et plus le temps passe, parfois, avec certains auteurs, plus on a de victimes. Regardez l'affaire de Le Squarneck, au départ, c'était de l'inceste. Les enfants ont essayé de parler, ils n'ont pas été entendus. Ils ont réessayé de parler une fois adultes, on leur a dit « c'est prescrit ». Résultat, au bout de 30 ans, on a combien de victimes présumées ? Près de 350. Premièrement, donc, le nombre de victimes peut augmenter, on peut avoir beaucoup plus de témoins. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'au moins 30%, selon nos chiffres, hein, 30% des auteurs avouent les faits. Voilà. Donc, si on cherche pas, on trouve pas. Si on ne décide pas de protéger, on protège pas. Et moi, je suis énervée quand j'entends ce type d'argument. Excusez-moi, mais soit on décide de protéger les enfants, soit on décide de protéger les agresseurs.
On terminera là-dessus, en tout cas, Isabelle Aubry, merci beaucoup. Je rappelle le nom de votre ouvrage, La première fois j'avais 6 ans, XO Document. Merci à vous.
Et puis on rappelle également, merci à vous, le nom de votre association Face à l'inceste. Beau témoignage. Merci à suivre.
C'est des sujets graves, mais c'est important, effectivement, d'en parler.
Une autre histoire plus légère pour terminer cette matinale dans quelques minutes. On ira au pied des pistes de Valménier. Et figurez-vous que là-bas, un pisteur secouriste transforme une dameuse en food truck.
Ah, sympa ça.
Food truck, c'est un camion.
Ça veut dire qu'on va bien manger. On va skier, on va mettre la combinaison et puis on va se faire plaisir.
C'est le week-end, restez avec nous.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
C'est la suite du Grand Matin et en cette dizaine de minutes, c'est la dernière ligne droite, mon cher Benjamin. Avec une drôle d'histoire, un peu plus légère, ça va nous faire un petit peu rêver pour tous ceux qui ont la chance d'être en vacances ou pas. On va au pied des pistes de Valménier, vous imaginez un peu, et on va retrouver un ancien pisteur secouriste, on l'entend d'ailleurs, qui transforme une dameuse en food truck. C'est quoi cette histoire ? On en parle avec Cédric Lacombe, qui est gérant du restaurant Le Barbotin, c'est en Savoie. Bonjour Cédric Lacombe.
Bonjour Cédric Lacombe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors dites-nous un petit peu, là, c'est quoi le menu aujourd'hui dans votre dameuse food truck ?
Alors aujourd'hui, ce sera du poulet basquez, comme plat du jour.
Sympa. Et alors vous avez le plat du jour, vous avez d'autres formules, comment ça se passe un petit peu ?
Oui, on fait beaucoup de snacking, c'est ce qui est demandé énormément de nos jours, donc burger, panini, des frites, et puis après-midi on fait des crêpes avec du chocolat chaud, bain chaud. Voilà.
Sympa. Et alors comment réagissent un peu les touristes quand ils voient votre dameuse avec cette possibilité de cette cuisine et puis ces plats emportés ? Il doit être surpris.
La première des choses, c'est qu'ils dégainent leur appareil photo ou leur téléphone pour le prendre en photo. Et,
vous êtes une star sur Instagram, alors.
Voilà, exactement. Mmh. Du coup, oui, c'est un concept qui plaît énormément, qui surprend un peu tout le monde, c'est vrai. On a plus l'habitude de voir des fourgons que des dameuses transformées en food truck.
Voilà. C'est vrai que c'est très original. Comment ça vous est venu, cette idée ? C'est quoi l'histoire de ce projet ?
Bon, ce projet existe déjà dans le monde, hein, dans des pays comme l'Autriche ou les États-Unis, c'est déjà bien implanté. Et en France, il y en avait un petit peu dans les Pyrénées, et pas trop dans les Alpes. Mm-hmm. Et là, je suis l'unique food truck de Meuse à la vallée de la Maurienne, en Savoie. Quoi.
Justement, vous l'avez. Alors, ça veut dire que cette idée, vous l'avez piquée dans les Pyrénées pour les importer, pour l'amener du côté des Alpes?
On l'a pas piqué dans les Pyrénées, parce que dans les Alpes, sur la vallée de la Tarentaise, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que il y en a beaucoup plus dans les Pyrénées, effectivement. Mmh.
Juste un mot là sur le nom justement de votre food truck, c'est le Barbotin. Ça c'est un beau clin d'œil aussi, d'autre part.
Alors le Barbotin, oui, ça deux raisons. La première, c'est que c'est la pièce maîtresse de la machine qui permet d'actionner les chenilles pour qu'elles puissent avancer. Donc c'est une roue crantée. Et la deuxième chose, c'est que je voulais rendre hommage au service de damage de la station, avec qui j'ai travaillé pendant 18 ans, qui avait une petite cabane où il mangeait le soir pendant qu'il damait les pistes, et il l'avait dénommé le Barbotin. Donc voilà, j'ai voulu rendre un petit hommage par ce nom.
Mmh. Et justement, parce que vous étiez donc ancien pisteur, justement,
secouriste.
Ouais. À quel moment vous êtes dit là, c'est pendant cette crise qu'on vit, vous êtes dit bon bah voilà, faut que je fasse ça pour apporter quelque chose.
Réinventer, c'est
oui.
ça.
Oui, il y avait un besoin sur le domaine skiable de petits restaurants rapides où on puisse se restaurer rapidement et manger un plat chaud et boire des boissons chaudes. Et voilà, c'est l'idée m'est venue l'année dernière. Et j'ai monté ce projet malgré la crise du Covid et les difficultés actuelles. Mais je suis plutôt satisfait de mon démarrage.
Bah oui, ça marche bien. Alors, vous parlez de snacking, mais il y a une volonté quand même de mettre en avant pas mal les produits locaux de la vallée de la Maurienne de votre côté. Hein.
Oui, tout à fait. J'ai une volonté éco-responsable sur ce projet. C'est de me servir de verre éco-cup, donc de verre réutilisable avec une caution que l'on rend aux personnes qui ramènent le verre. Ouais. Donc on n'a pas de verre jetable, on a des éco-cups. Et puis l'idée aussi, c'est de faire travailler les acteurs de Valmenier, les artisans et les commerçants, dont la brasserie La Guape, qui fabrique de la bière artisanale. Et faire travailler aussi la chèvrerie de Valmenier, où on prend leur fromage pour faire des paninis et des burgers aux chèvres.
Ce côté un petit peu produit locaux, et puis aussi vous mettez à l'honneur de temps en temps, je crois, justement vos origines aveyronnaises, c'est ça?
Exactement, c'est vrai que vous le voyez déjà par mon accent, j'ai pas trop l'accent savoyard, hein, malgré que ça fait 25 ans que j'habite à Valmenier, mais j'ai conservé mon accent aveyronnais. Voilà. Du coup, c'est vrai que j'essaie de faire profiter des plats de ma région, dont l'aligo, les confits de canard.
L'aligo saucisse.
Voilà, exactement, tout à fait. C'est ce que j'ai fait hier à plat du jour et ça.
Ah, c'était hier.
Voilà, c'était ça.
Ah bah, on arrive trop tard du coup.
Voilà.
Vous avez prévu donc de faire l'ensemble de la saison là, avec ce food truck d'Ameuse. Vous avez encore un peu d'espoir cette année que les remontées mécaniques redémarrent là?
Ben oui, un petit peu, oui, oui. Ouais. J'ai discuté encore. Il y a très peu de temps avec le directeur de la station qui fait tout et qui met tout en œuvre pour maintenir son domaine skiable en damant les pistes, en entretenant le domaine pour une éventuelle ouverture. Donc on reste confiant. Hein. Écoutez.
Et on croise les doigts, j'ai envie de dire. Du coup, là, vous en êtes où de votre journée? Ça y est, c'est parti en tout cas?
Oui, mais là, je suis en pleine ouverture. Je suis en pleine ouverture. Ah, bah, il y a déjà plein de monde qui se promène en raquette, qui fait du ski de rando. Ça bouge déjà pas mal sur la ligne.
Et ben voilà, et bien, surveillez avec Laurence, on va pas tarder à passer devant.
L'aligo saucisse.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Cédric Lacombe, hein, effectivement, avec cette dameuse food truck à Valmenier, donc en Savoie. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Merci.
Allez, pour terminer, un petit coup d'œil sur la revue de presse avec Félix Mathieu.
Bah oui, l'occasion de revenir un petit peu sur, terminer un peu cette matinale du Grand Matin de Sud Radio avec quelques éléments, en tout cas les grosses actus du jour et notamment cette une du Parisien aujourd'hui en France à la femme qui accuse PPDA, hein, Félix.
Hein. Oui, l'écrivaine Florence Porcel qui vient de déposer plainte contre l'ancienne star du 20h de TF1 pour deux viols qui seraient intervenus selon elle entre 2004 et 2009. Alors, une enquête judiciaire a été ouverte cette semaine à Nanterre. Elle décrit en tout cas cette accusatrice, une première scène de rapport forcé qui aurait eu lieu dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor à TF1 après le journal télévisé. C'était suite à une lettre d'admiration pour son dernier livre qu'elle lui avait adressé. S'en serait suivi d'autres relations, certaines consenties, une autre non en 2009. Une écrivaine qui en tout cas dit s'être inspirée de cette relation pour son premier livre. Et dans Le Parisien aujourd'hui en France, PPDA réplique en tout cas en dénonçant, je cite, des accusations qui ne peuvent être que fantaisistes.
L'actualité aussi, eh bien, c'est cette nouvelle dernière conférence, en tout cas de presse d'Olivier Véran. C'était hier soir, la Dépêche du Midi y revient. L'heure n'est pas au relâchement, la station d'Olivier Véran.
Oui, la baisse légère de certains indicateurs ne saurait masquer le risque d'une troisième vague épidémique contre laquelle les hôpitaux se mobilisent déjà. Ce n'est pas terminé, assure le ministre de la Santé. D'ailleurs, l'autre virus, c'est celui qui est à la une de Libération, qui parle des cyberattaques. Hein. Depuis le début de l'année, 7 établissements de santé au total quand même ont été victimes de rançongiciels, un impact direct forcément sur la prise en charge des patients. Du coup, le président Macron a promis hier 1 milliard d'euros pour lutter contre ces pirates, des pirates qui ciblent aussi d'ailleurs les collectivités locales.
Puis un dossier sur le nucléaire, l'Iran endurcit le ton face à Joe Biden, c'est ce que nous dit donc le Figaro aujourd'hui.
Oui, Téhéran met le président américain sous pression en multipliant les entorses à l'accord sur le nucléaire iranien, accord de 2015. Téhéran qui enrichit de l'uranium, qui produit de l'uranium métal, aussi des entorses destinées à tenter de renforcer sa position en vue d'hypothétiques négociations.
Et puis, puisque vous avez sorti l'écharpe de l'Olympique de Marseille, je vois ça, Félix Mathieu, et c'est l'occasion de parler de la révolte à la une de la Provence, hein, ça concerne bien sûr l'OM.
Oui, la rupture est consommée, hein, nous dit la Provence, entre les supporters marseillais et Jacques-Henri Hérault, le président du club, dans une tribune publiée dans la Provence. De nombreuses voix, des artistes, des intellectuels, des personnalités de tous horizons. Ils clament tous leur amour de l'OM et de ceux qui incarnent son âme.
Et vous le clamez très bien. Merci beaucoup, Félix Mathieu. La suite,
Valérie
après
Expert,
le Grand Matin, Valérie Expert et un invité exceptionnel.
Ah oui, qui reçoit Ibar, c'est le réalisateur du prochain documentaire de Zone Interdite, Quand les médecins redonnent espoir dans les coulisses d'opérations miracle. Et puis il y aura bien sûr les coups de cœur des libraires avec Gérard Collard. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Lundi, c'est le retour de Patrick
Roger et de Cécile Minibus. Passez une très bonne journée
et
à l'écoute
bon
de Sud Radio et bon week-end.